32nd pick in the 2018 NFL Draft, the Baltimore Ravens select Lamar Jackson, quarterback, Louisville.
All right.
Some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball.
Curry drive, scoop layup.
All beauty from Steph Curry.
If I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them.
Moore told us, and now we have an altercation. Alex Ovechkin pounding away on Andre Svechnikov, who's down.
That one right there made you the greatest player of all time.
Bonjour, bonsoir à tous. Hype épisode 10. Ouais, c'est déjà l'épisode 10. Hein. Le temps passe vite. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de sport US. Nous, on va enchaîner avec de la MLB aujourd'hui, de la NBA, de la NHL et de la Major League Soccer, puisque la saison va reprendre très très rapidement le 29 février prochain. Pour accompagner donc le lancement de cette saison, hein, Fred Pickle est toujours avec nous, mais on va accueillir un petit nouveau, Antoine Latran, qui est rédacteur en chef pour le site Culture Soccer. Ils sont très très présents sur les réseaux sociaux. On va lui donner la parole sur le premier thème de sa capsule, comme il l'appelle, l'expansion de la MLS. Et pour nous accompagner également, on a Melville avec nous, il est tout seul. Il parlera de NBA, de la trade deadline. On aura Charles aussi, Trognon, qui nous parlera d'un rookie des Blue Jackets qui fait les merveilles. Et Jean-Seb, qui sera là pour nous parler du blockbuster trade de ces derniers jours entre Boston et Los Angeles. Comme en NBA, d'ailleurs, c'est chaud entre les deux franchises. J'espère que vous allez bien, messieurs.
Ouais, très bien, très bien. Comment vas-tu, Sylvain ?
Écoute, ça va, merci Melvin. Les cartons, ça y est, t'as géré, c'est terminé, tout va bien.
Les cartons sont en train doucement, mais sûrement de laisser la place à notre petit chez nous, puisqu'on vient de déménager. Et puis bon, toujours à San Francisco, belle soirée hier avec le retour d'André Iguodala sous le maillot de Miami. C'était assez...
Émouvant,
assez
particulier.
Ouais, très très particulier. J'ai écrit un truc sur Basket USA d'ailleurs, sur ça, et c'était vraiment le retour de plus que d'un joueur, c'est le retour vraiment d'un membre de la famille Warriors, quoi. Donc c'était vraiment vraiment particulier.
Bon, très bien, c'est vrai que c'est un joueur important. On espère qu'il le sera tout autant pour Miami et qu'il aura tout de suite un impact sur cette équipe. Et si jamais il fait ce qu'il a apporté aux Warriors, ça peut aller très loin, je pense. Hein. Jean-Seb, comment vas-tu ?
Salut Sylvain, salut tout le monde, bonjour au nouveau. Écoute, ça va bien, je suis heureux de vous retrouver. Pour ma part, c'est ma deuxième avec vous. Et puis, comme la dernière fois, je vous ai parlé des Astros dans une actu qui était chaude et qui venait de tomber, on reprend un petit peu les mêmes bases avec des actus chaudes et ce blockbuster trade, et on va pouvoir en parler tout à l'heure.
Yes, d'ailleurs, on va commencer avec la MLS et Antoine. Antoine, l'expansion, apparemment, c'est quelque chose qui est pris au sérieux maintenant, le soccer aux États-Unis.
Bonjour à tous. Oui, en effet, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de soccer nord-américain. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la Major League Soccer. La Major League Soccer, c'est une ligue qui explose récemment. Vous l'avez sûrement entendu dans les médias européens, parce que c'est commence à avoir de l'intérêt venant de partout dans le monde. Pour ces premières capsules, on va parler notamment du nombre de franchises. L'expansion de la Ligue, elle se fait à ce niveau-là en particulier. Cette année, en 2019, Nashville et Miami rejoignent la Ligue. C'est une Ligue qui atteindra les 30 équipes d'ici 2 ans. Ainsi, on a notamment Charlotte et Austin qui rejoignent en 2021, puis Saint-Louis et Sacramento en 2022. Sacramento est extrêmement attendu, puisque c'est une équipe qui a énormément de popularité au niveau de la deuxième division. Alors pourquoi ces expansions ? L'expansion, en fait, c'est un moyen pour la MLS notamment d'avoir des nouveaux territoires, ce qui veut dire plus d'audience notamment, plus de public, plus de jeunes qui potentiellement y jouent, puisque l'équipe possède une sorte d'influence sur tout ce qu'il fait au niveau local, donc un essor du soccer dans tout le pays. Et donc c'est très important pour la MLS, puisque aussi en 2022, elle va renégocier les droits de télé, qui sont pour le moment été de 90 millions, il me semble, pour les 4 dernières saisons, ensemble avec l'équipe nationale masculine américaine, et ils veulent que ce nombre augmente et... plus de territoires couverts, plus de franchises, ça signifie plus d'audience, donc potentiellement des contrats plus onéreux pour la MLS. Donc voilà, c'est l'expansion, c'est vraiment le moteur de la MLS ces dernières années, surtout que le prix a augmenté d'une façon vertigineuse. Il était de 10 millions. Toronto, quand ils sont arrivés en 2007, ont dû payer 10 millions pour acquérir une place dans la Major League Soccer. En 2015, le New York City FC avait dû payer 100 millions de dollars. Et en l'année dernière, pardon, en 2019, c'est Charlotte qui a dû payer 325 millions de dollars, un nouveau record. Donc voilà, c'est un prix qui augmente vertigineusement et c'est dû surtout en fait à un sentiment de rareté. Il y a des nouveaux territoires qui sont toujours intéressés par une franchise MLS, notamment Phoenix, mais ils ne savent pas en fait où la MLS va arrêter son expansion. Elle aura donc 30 équipes, elle pourrait l'arrêter à 32, à 34, on ne sait pas encore. Mais le fait qu'il y ait cette rareté, c'est pour ça que Charlotte a payé 325 millions d'euros, de dollars, pardon, c'est pour s'inscrire dans ce marché qui peut peut-être exploser et investir en fait dans une valeur montante qui est la Major League Soccer. On n'est pas encore aux 500 millions de la dernière franchise de hockey récemment de Las Vegas, mais on n'en est pas si loin. Et s'il y a dans le futur deux nouveaux spots qui sont ouverts, il est possible que ce prix augmente encore. Pour les deux nouvelles expansions pour la saison prochaine, on en a donc le Miami Football Club de David Beckham, qui l'a acheté pour seulement 25 millions de dollars. En fait, il avait signé dans sa clause en 2007, en signant avec Los Angeles Galaxy, qu'il voulait créer une équipe de MLS. Donc dans sa clause, il y avait voilà la possibilité de créer une pour seulement 25 millions de dollars. Ça a été une équipe extrêmement compliquée à bâtir, puisqu'elle a mis des années avant de sortir de terre, et il y a des difficultés encore sur le stade qui ne se déroule qui n'est pas à Miami. Il y a Fort Lauderdale, à plusieurs kilomètres de la ville, et dans une autre ville. Et pour le moment, il voudrait seulement rester 2 ans à Fort Lauderdale avant de déplacer à Miami, mais c'est pas encore chose faite. On ne sait pas encore quand ça sera fait, et ça m'étonnerait que le délai de 2 ans tienne. Par contre, sur le terrain, ils ont fait du bon travail. L'effectif paraît assez talentueux avec de jeunes latino-américains et des valeurs sûres de la MLS à l'image de Lewin par exemple, le milieu américain de Los Angeles. Donc voilà, une franchise qui s'est bien construite. Nashville par contre c'est plus compliqué, il y a encore beaucoup de transferts à faire je pense, et ils sont bâtis vraiment sur beaucoup de l'expérience de la MLS, mais il y a aussi des problèmes de stade, ils joueront dans le stade des Titans de NFL pour leur première année, mais ça pourrait changer dans les années à venir. Ils veulent leur propre stade de soccer et pour l'instant ouais, l'effectif est un peu compliqué. Par contre niveau fans ça devrait aller, l'équipe de deuxième division a attiré 5000 ou 6000 fans, on s'attend à environ entre 15 et 20 000 pour la première année. Niveau de l'évolution économique, pardon, elle se fait aussi au niveau des transferts. En MLS, vous le savez, c'est une ligue qui, contrairement aux autres ligues américaines, joue dans un marché qui est mondial. Et donc forcément, il faut faire des transferts avec le reste du monde. Et les niveaux des achats et des ventes, ça augmente énormément. Depuis l'arrivée, par exemple, de Jovinko, au niveau des achats, la ligue attire des Européens, des joueurs pardon, qui jouent en Europe, pas forcément Européens, mais plus jeunes. Je pense à Romain Alessandrini qu'on connaît en France, mais aussi à Alejandro Pozzuolo ou Carlos Vela qui joue maintenant au LAFC. C'est des joueurs qui sont plus dans la fleur de l'âge et qui viennent en MLS plus tôt qu'avant. Il y a aussi des Sud-Américains de Liga MX ou du championnat argentin, je pense à Nicolas Lodeiro ou à Alan Pulido, qui sont des joueurs talentueux d'Amérique latine et qui arrivent pour des grosses sommes. Récemment, Atlanta, par exemple, a dépensé 15 et 14 millions, sont les records de MLS, pour Barco et Pity Martinez, qui sont des joueurs très talentueux de championnat argentin, qui auraient été aussi pistés en Europe. Donc voilà, la MLS essaie de devenir un pont entre le continent latino-américain et l'Europe, et ça se voit aussi dans l'évolution des prix de vente de ces joueurs. Donc rien que dans la saison dernière, on a eu Zach Steffen qui a été vendu de Columbus à City, Manchester City pour 7,5 millions de dollars, mais aussi Alphonso Davies qui fait des merveilles avec le Bayern Munich pour 13 millions, et puis surtout Miguel Almiron qui est un jeune paraguayen qu'Atlanta était allé chercher très jeune et qui l'ont revendu à Newcastle pour 26 millions de dollars, nouveau record de la ligue. Donc voilà, c'est une ligue qui se positionne surtout sur la vente. Et voilà, c'est une stratégie d'une ligue de vente, avec une augmentation des salaires aussi récemment. Donc voilà, par contre, au niveau de la culture soccer, on a aussi des fans qui augmentent partout dans le monde. Les affluences sont assez incroyables, notamment à Atlanta, où on dépasse souvent les 50 000 spectateurs, mais aussi à Seattle. Ce sont deux villes vraiment au niveau affluence qui dominent la ligue. C'est pas parfait partout. Il faut pas dire, voilà, il y a des audiences très mauvaises, notamment au Texas, à Dallas et à Houston. Mais c'est bon signe pour la ligue. Et puis les mouvements ultra aussi commencent à apparaître avec des vraies identités locales ou politiques ou une envie de faire du bien à sa communauté. Et donc c'est quelque chose qui reprennent aussi les mouvements ultra d'Amérique latine, notamment, puisqu'il y a une excellente influence latino-américaine sur le mouvement des fans en MLS qui est très intéressante à observer. Par contre, voilà, il faut le dire, c'est pas partout. La MLS reste aussi très protectrice et ne veut pas que les ultras aient trop d'influence. Ils ne laissent pas mettre des affiches de ce qu'on veut. Mais en tout cas, niveau Tifo, par exemple, la MLS est devenue impressionnante. Et les audiences télé sont toujours pas si bonnes que ça pour la MLS, qui va essayer vraiment d'augmenter les deux prochaines années pour pouvoir signer une nouvelle deal. Donc voilà, c'est une expansion de la ligue qui se fait sur plusieurs niveaux. Au niveau des franchises, au niveau économique par rapport à la vente et l'achat des joueurs, et puis au niveau de la culture soccer qui se déploie dans tout le pays.
Messieurs, la MLS, vous allez suivre cette saison ou pas ?
Moi, personnellement, je vais être totalement transparent. Je suis pas sûr de m'y mettre tout de suite, parce que c'est vrai qu'avec déjà une saison MLB bien remplie, qui me prend pas mal de temps, je suis pas sûr d'avoir forcément le temps de regarder, mais j'essaierai tout de même de faire l'effort de scouter un petit peu ce que fait donc Culture Soccer et pourquoi pas m'y mettre dans le futur.
Ok, Melvin.
Alors moi, je vais aussi suivre de très loin. J'ai des attaches par ma femme avec Portland, donc on suit toujours un peu l'équipe des Portland Timbers, parce que on a un membre de notre famille qui est sponsor, donc du coup on va voir quelques matchs quand on est là-bas, mais après je mentirais si je dirais que je vais suivre attentivement cette saison de MLS. Mais j'espère qu'il va se passer plein de trucs et que Thierry Henry va nous donner envie de suivre cette nouvelle saison un peu plus de plus près.
Ouais, Thierry Henry qui donc revient en MLS. Hein. Bon, je pense que tout le monde est à peu près au courant après son passage en tant que joueur au New York Red Bulls. On va essayer, on va voir un peu avec Fred ce qu'on peut faire de l'avoir. Ce serait vraiment bien qu'il puisse nous dire comment lui et sa franchise vont aborder cette nouvelle saison. On sait que le coach est ambitieux et que la MLS voilà, est un championnat qui devient de plus en plus compétitif, donc ça va être intéressant à suivre, et on suivra à coup sûr, même si on ne l'a pas avant saison ou en saison, on suivra bien sûr l'équipe de Thierry Henry, l'Impact de Montréal. On enchaîne avec la NHL, et un rookie des Blue Jackets casse la baraque.
Bonsoir à tous, effectivement, le rookie Elvis Merzlikins est en train de se faire un nom au sein de la Ligue Nationale. C'est un gardien letton de 25 ans qui n'est pas inconnu dans le monde du hockey sur glace, puisqu'il est formé à Lugano en Suisse, un championnat extrêmement relevé où il a remporté deux fois le trophée Jacques Plante en 2016 et 2018. C'est le trophée qui récompense le meilleur gardien de la Ligue Nationale Suisse. Et grâce à une nouvelle grosse saison, il intègre l'effectif des Blue Jackets cette saison pour remplacer Jonas Korpisalo, alors devenu gardien numéro 1 après le départ de Sergei Bobrovski, parti en Floride. Il a donc le statut de gardien remplaçant et son début de saison ne se passe pas comme prévu. Il doit attendre son 8e départ pour remporter son premier match. Alors à ce moment-là, John Tortorella, le coach, le défend, et à juste titre, le joueur est rookie. Et Columbus a perdu toutes ses stars cet été, Duchesne, Panarin, Bobrovski. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le hockey, c'est la colonne vertébrale de cette équipe, ou presque, qui s'en est allée. Les matchs passent, nouveau blessé d'envergure pour les Blue Jackets, Jonas Korpisalo, gardien numéro 1 et All-Star, puisqu'il a été sélectionné au All-Star Game cet hiver, eh bien se blesse. Elvis Merzlikins prend donc les commandes de cette équipe, et là, il est transfiguré. Il a connu une série de 8 victoires de suite qui s'est arrêtée ce week-end, durant laquelle il a réalisé 5 blanchissages, ce qui est énorme pour un gardien rookie. Il a des statistiques parmi les meilleurs gardiens de la ligue, meilleur pourcentage d'arrêt, et personne n'a fait mieux que ces 5 blanchissages. Il a non seulement fait oublier Sergei Bobrovski, mais en plus, il met le doute dans la tête du coach Tortorella. Faut-il mettre Korpisalo, le gardien All-Star, quand il va revenir de blessure, ou alors laisser Merzlikins en jeu? En tout cas, les Blue Jackets de Alexandre Texier, notre français, vont bien mieux qu'en début de saison et visent les playoffs, alors que tout le monde, et moi y compris, les voyait dans les bas-fonds de la Ligue Nationale cette saison. Pourtant, ils sont 3e de leur division, la division métropolitaine, derrière les Penguins de Pittsburgh et les Capitals Bulls de Washington. Alors, faire une Saint-Louis comme la saison dernière, qui était dernier début du mois de janvier, qui ont finalement remporté la coupe grâce à un gardien rookie qui est arrivé au début du mois de janvier, ça semble compliqué quand même puisque l'effectif est moins conséquent, mais la Ligue nationale est si homogène ces dernières années que maintenant tout paraît possible.
Messieurs, ce serait peut-être intéressant de faire un parallèle entre les rookies de vos sports de prédilection. Il est rare, on peut le dire, même s'il y a toujours des exceptions, qu'un rookie puisse avoir un impact tout de suite sur sa franchise et encore moins sur la ligue. Est-ce que ce parallèle peut exister au sein de la MLB, par exemple, Jean-Seb?
Bah, nous, justement, en MLB, c'est vrai que si tu prends les dernières saisons qui viennent de s'écouler, les rookies de l'année, en tout cas, ont un impact, mais alors immédiat sur leur franchise. Hein. Si, par exemple, tu prends Pete Alonso l'an dernier, eh bien, il fait 53 home runs, il bat le record de home runs pour un rookie, et tout de suite, il se place même en candidat au titre MVP, puisqu'il a été septième au MVP. Donc, on parle de joueurs qui sont très importants, et puis si tu penses par exemple à un Otani qui est arrivé dans le Grand Chelem en 2018, qui est un lanceur japonais capable aussi de frapper des home runs, eh bien ce sont des joueurs que l'on n'a pas vu en MLB depuis eh bien Babe Ruth. Donc on a là vraiment des joueurs qui arrivent dans la MLB et qui s'inscrivent tout de suite comme étant presque des franchise players. Je pense aussi en 2017, on voit le phénomène Aaron Judge qui débarque aux Yankees. Mmh. Aujourd'hui, quand tu penses aux Yankees, tu penses tout de suite à Aaron Judge. Et d'ailleurs, il avait fini cette saison-là deuxième au trophée MVP. Donc, c'est vrai qu'en MLB, eh bien, les rookies ont une importance énorme, je trouve, dans le roster d'une équipe. Et alors, je me demande si, par exemple, en NBA, c'est la même qu'en MLB. Est-ce qu'en NBA, on peut voir, comme en MLB, des joueurs capables, on va dire, d'influencer le cours du destin, le cours d'un match, et d'aller faire gagner son équipe, ou si c'est peut-être un petit peu plus des joueurs que l'on protège, on va dire, que l'on va inclure dans une rotation, dans un roster plus tranquillement.
Melvin ?
Ouais, je pense que ça dépend du contexte. Généralement, les joueurs qui sont choisis, disons dans le top 5 voire top 10, allez, de la draft, on attend d'eux, ou en tout cas leur franchise attend d'eux qu'elles aient un impact. Après, pour avoir un vrai impact, pour devenir, tu vois, un franchise player, comme tu le disais avec Aaron Judge, c'est vraiment très rare. On le voit par exemple cette année avec un mec comme Ja Morant qui va gagner le titre de Rookie of the Year et qui a vraiment changé la façon dont Memphis joue et qui est vraiment exceptionnel à avoir joué. Après, on a bien évidemment Zion. Alors il a raté les trois premiers mois de la saison, mais là il est revenu et il fait des bonnes performances. Donc je pense que s'il avait joué toute la saison, il aurait eu un impact similaire à celui d'un LeBron James par exemple quand il a été drafté, ou d'un Tim Duncan qui a vraiment changé les franchises dans lesquelles ils sont arrivés. Après, c'est un peu plus compliqué, je pense, pour les joueurs qui sont draftés un peu plus bas, parce que ben vous arrivez dans des équipes qui sont déjà établies avec des joueurs déjà établis, donc c'est un peu plus compliqué d'arriver à gagner du temps de jeu. Et puis après, ça dépend aussi de votre coach. Il y a certains coachs en NBA qui ont la réputation de ne pas trop faire jouer des jeunes joueurs. Je pense notamment à Dwayne Casey à Détroit, qui a fini par faire jouer le rookie français Sekou Doumbouya, mais qui a dû attendre d'avoir plusieurs pour vraiment lui donner sa chance. Donc ça, je pense que ça dépend vraiment du contexte, mais il y a quelques exceptions. Qui comme Ja Morant, comme Zion, comme LeBron, qui peuvent vraiment cette trajectoire d'être un franchise player assez rapidement.
J'ai une question pour vous deux, messieurs, toujours sur le sujet rookie, impact, franchise, voire ligue. En MLB, on a l'impression que les joueurs obtiennent plus vite la confiance de leur coach et de leur franchise pour être tout de suite en mesure de performer. Est-ce que c'est une différence fondamentale entre la MLB et la NBA, où justement la NBA, pourtant une ligue de joueurs, hein, a parfois encore un petit peu du mal à confier les clés entières du camion à un jeune joueur. Là, on vient de citer, On vient de citer Doumbouya. Bon, le regretté Kobe, pour juste en parler quelques minutes, a eu quand même du mal à avoir la confiance de ses coachs à l'époque, et on sait la légende que c'est devenu. Est-ce que, voilà, en MLB, on serait un peu moins frileux quand on a un jeune talent de le lancer, et en NBA, peut-être un peu plus conservateur dans l'idée qu'il faut respecter le plan de jeu des coachs et gagner sa place chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde.
En fait, pour moi, j'interviens parce qu'il y a une grosse différence entre, par exemple, la NBA et la MLB. C'est que, si j'ai pas de bêtises, en NBA, lorsque vous faites la draft, eh bien, quelques mois plus tard, vous voyez le joueur sur le parquet. En MLB, ça se passe pas du tout comme ça. Vous avez une draft, vous allez drafter un joueur, et puis vous allez l'envoyer dans des minor leagues. En gros, ce sont des championnats avec qui sont remplis de joueurs de jeunes, très 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 jeunes, qui sont les futurs stars de votre équipe ou pas, puisque certains ne parviennent pas à aller jusqu'au haut niveau. Et en fait, pendant des mois, voire des saisons, des années, les joueurs que vous avez draftés vont se faire un petit peu les gammes dans ces minors leagues avant d'être appelés en MLB si jamais ils ont performé à ce moment-là. Lorsqu'ils vont être appelés, que oui, effectivement, on va les mettre en tant que futur franchise player. On l'a vu avec Alonso, avec Judge, ou même Bellinger, qui vient d'être MVP en 2019, et qui a un tout petit contrat parce qu'il est peu payé au final. Donc, c'est des plus-values énormes pour les équipes. Mais avant d'arriver là, avant d'arriver sur un terrain MLB, en fait, ces joueurs-là ont bouffé des matchs et des matchs, des centaines de matchs dans les minors leagues.
Ils sont prêts.
Exactement.
C'est des rookies pour faire le parallèle avant de donner la main à Melvin, bon, qui sont passés par des ligues de développement finalement et qui arrivent plus ou moins prêts à jouer quand on leur donne leurs responsabilités. Des responsabilités.
C'est exactement ça.
Ouais. Ok. Melvin ?
Ouais, alors ça arrive de plus en plus en NBA avec le développement de la G League. On le voit notamment par exemple avec le néo All-Star Pascal Siakam qui est passé par la G League. Pareil pour Fred VanVleet, son coéquipier à Toronto, qui ont vraiment fait leur classe dans l'antichambre de la NBA avant de faire leur place en NBA et de pouvoir tenir un rôle important. Après, je pense que il y a un peu de ce que tu disais Sylvain, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de respect de l'ancienneté ou des vétérans où les jeunes sont un peu obligés de manger leur pain noir avant de pouvoir avoir du temps de jeu. Après, là aussi, ça dépend de la situation et des fois, il y a des general managers ou même des propriétaires qui vont demander à leur coach de donner du temps de jeu à un rookie même s'il n'est pas au niveau, juste pour pouvoir lui donner de l'expérience. Et après, l'autre raison pour laquelle parfois en NBA c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est que les joueurs arrivent très jeunes et donc il y a un besoin d'éducation au jeu NBA.
Trop jeune ?
Le jeu NBA.
Trop jeune ou pas ?
Trop jeune ou pas, ça dépend parce que la plupart de ces joueurs-là ont le niveau pour jouer en NBA. Après, est-ce qu'ils ont le niveau pour jouer d'un point de vue stratégique ? Et tout ce qui se passe dans le plan de jeu, la mise en place d'un plan de jeu, de respecter le plan de jeu, d'être patient, ça c'est quelque chose qui vient avec l'expérience et avec la répétition. Donc je pense que cette période d'adaptation pour les rookies est importante, surtout qu'il n'y a pas énormément d'entraînement en NBA vu que le calendrier est assez serré. Si vous ratez par exemple le training camp, après c'est match et vous faites des les entraînements sont plus là pour faire des shoots que du placement tactique, on va dire. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'adaptation au jeu NBA. Et on le voit d'ailleurs avec les rookies. Moi j'ai l'occasion de le voir par exemple avec les rookies des Warriors que je côtoie assez régulièrement. Personne ne s'attendait par exemple à ce qu'Eric Pascal joue vu qu'il était sorti du deuxième tour. Mais au final, avec les blessures, ils l'ont un peu jeté sur le feu. Jordan Poole, c'était un peu pareil, il a vraiment eu du mal au début, et là, maintenant qu'il a plus de répétitions, il commence à être plus à l'aise, il est plus patient, il prend le temps de lire, de regarder comment les défenses défendent, et puis il y a aussi juste une habitude de connaître vos adversaires, parce que vu que c'est une ligue fermée, vous jouez contre les mêmes joueurs, donc je pense que apprendre les tendances des joueurs adverses aide aussi les rookies à savoir comment jouer et comment tirer leur épingle du jeu.
Ok, bon, ben, c'est vrai que les rookies, c'est, on n'est pas coach, mais c'est forcément pas toujours évident à gérer. Il y a le talent, il y a le potentiel évident, et puis il y a cette alchimie nécessaire que le coach doit trouver entre anciens, entre nécessité de résultat et puis courage de lancer des jeunes talents. Donc c'est pas évident. On va le suivre en tout cas, cet Elvis et même les rookies de NBA et de MLB là, qui vont démarrer dans quelques semaines. Hein, c'est ça, Jean-Seb, début mars, la saison se lance hein, en MLB.
Est-ce que oui, en fait, ça sort. Ouais, vas-y. Ce sera le début de la régulière sera fin mars, ouais, mais,
fin mars, pardon.
Okay. Ouais, mais tu as raison, puisqu'en fait, on va arriver sur le spring training, qui est l'entraînement un petit peu... Enfin, ce ne sont pas des entraînements, ce sont des matchs amicaux, mais c'est cette période de reprise, en fait, aux États-Unis de la MLB, avec un enchaînement de matchs amicaux qui vont mener les équipes vers le début de la régulière, oui.
Ok, bon, bah... À suivre, mesdames et messieurs qui nous écoutez avec attention, tout ça, ça va être, à mon avis, très, très passionnant. Enchaînons sur la MLB avec toi, Jean-Sébastien. Il s'est passé des choses assez incroyables là, ces dernières heures, ces derniers jours. Blockbuster trade, les Red Sox et nos amis de Los Angeles ont échangé ni plus ni moins qu'un joueur qui sera, à mon avis... une légende de son sport. Mookie Betts, hein, c'est ça. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours, Jean-Sébastien?
Avec plaisir, ouais, c'est vrai que tu l'as dit, c'est un blockbuster trade qui a tenu un peu en haleine les fans de baseball pendant une semaine. Alors, c'est énorme pour un trade, puisque normalement, c'est plié en quelques heures. Et là, ça a été tout l'inverse. Ça a eu lieu en deux temps. Ça a commencé la semaine dernière, donc comme tu l'as dit, avec des infos qui ont d'abord fuité de la part des insiders MLB,
ouais.
Avec une première version qui datait du 5 février, annonçant donc un trade à 3 entre Red Sox, Dodgers et Twins, ouais. Dans lequel Boston envoyait donc Mookie Betts et David Price contre Verdugo des Dodgers et Graterol, un jeune lanceur des Twins. Minnesota, justement, il a récupéré Kenta Maeda, le lanceur des Dodgers, et LA faisait un véritable braquage avec les arrivées de Mookie Betts, donc le MVP, comme tu l'as souligné, ouais. Et de David Price, hein, qui fut meilleur lanceur d'American League en 2012 et qui a été notamment 5 fois All-Star. Et puis, les heures passent, c'est des heures qui se transforment très vite en jours sans qu'on ait en fait la moindre officialisation d'une équipe.
Okay.
Et donc, au bout de 2-3 jours, les news arrivent. Finalement, Boston bloquerait le trade. Alors là, il y a deux versions. La première, c'est qu'ils auraient été inquiets sur l'état de santé du jeune Graterol, qu'ils doivent récupérer et qu'ils auraient donc un petit peu, on va dire, gelé les négociations. La seconde, qui, à mon sens, est la plus probable, c'est qu'ils se sont un petit peu rendus compte que le trade était totalement à leur désavantage. Ils envoyaient l'un des trois meilleurs joueurs de toute la ligue, tu l'as dit, qui va sans doute devenir une légende de son sport, qui a 27 ans, qui n'est même pas rentré dans son prime. Et finalement, ils envoyaient cette future légende contre un paquet de bonbons et trois malabars, si je puis dire. Donc en fait, les fans de Boston, ils ont vite grondé. Et donc, après cette première version, il y en a eu donc une deuxième version qui est tombée dans la nuit de dimanche à lundi, donc il y a 48 heures. Ouais. Et un nouvel accord a été trouvé. Cette fois, Boston envoie toujours Mookie Betts et David Price plus de l'argent, on va y revenir, à LA. Mais cette fois, il récupère Verdugo plus deux jeunes prospects du farm system des Dodgers, à savoir Jeter Brown et Wong.
Okay.
Donc en fait, ils ne se retrouvent plus avec un seul jeune potentiel, mais trois jeunes à fort potentiel dans les prochaines...
On rééquilibre un petit peu la balance, on essaye en tout cas.
Exactement, en tout cas on essaye de récupérer. LA, eux, ils ont toujours la main sur Betts et Price, mais aussi sur de l'argent, comme je vous l'ai dit, puisqu'en fait les 96 millions de dollars qui restent à payer à David Price vont être partagés avec Boston. Voilà, donc... Et puis pour le trade final, Minnesota garde Kenta Maeda qui arrive donc en provenance de LA. Donc voilà pour le trade. Alors maintenant, qui est gagnant, qui est perdant? De toute évidence, les Dodgers, en fait, ils ont quand même réussi un sacré coup. D'abord parce qu'ils obtiennent Mookie Betts pour un an contre aucun top prospect. En fait, tout à l'heure, on parlait des rookies. Ils ont dans leur farm system, par exemple, un Galvin Lux qui peut jouer deuxième base comme shortstop, qui va arriver cette année, ouais. Et qui sera certainement candidat au rookie de l'année 2020. Donc, ils le gardent. Donc ça, c'était vraiment le premier point important pour eux. Puis ensuite, avec Betts, ils rajoutent tout simplement un MVP. Donc là, on a une équipe qui va aligner trois MVP dans, dans le roster avec Kershaw et Bellinger. Ils ajoutent Mookie Betts, un joueur qui est capable de beaucoup scorer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça fait deux saisons qu'il termine en tête du nombre de runs de toute la MLB. C'est-à-dire que c'est lui qui score le plus. C'est un joueur capable d'énormément frapper la balle pour arriver en première base. Il a notamment eu la meilleure moyenne au bâton il y a deux ans, en 2018. Et puis, il est toujours top 10 en nombre de 8. Donc voilà, c'est un joueur très rapide sur les sentiers. Il vole des bases de façon assez régulière. Donc, ce que je vous décris là, c'est le portrait robot, en fait, de ce qu'on peut appeler un lead-off hitter. Alors, qu'est-ce qu'un lead-off hitter? Eh bien, c'est le premier joueur d'une équipe qui se rend à la batte. Et ça doit être un joueur complet, capable d'arriver en première base très régulièrement. Très vite, ouais. Et qui possède, en plus du bâton, des très bonnes jambes. Donc, pour moi, Mookie Betts, eh bien, en fait, c'est tout simplement le meilleur lead-off hitter du monde. LA en avait besoin, puisque c'est une position aux Dodgers qui n'était pas réellement attribuée. L'an dernier, il y a eu 10 joueurs différents qui ont frappé en première position à Los Angeles. Et lorsque Mookie Betts est MVP en 2018, par exemple, il bat en numéro 1 à 90% de la saison. Donc voilà, LA a mis la main sur un joueur fabuleux, autant défensivement qu'offensivement, qui peut, bien oui, vous faire gagner un titre comme il l'a fait avec Boston. Il est là pour un an. Il va maintenant falloir essayer d'aller chercher cette bague à LA pour convaincre Betts de rester à la fin de saison, puisque je le rappelle, il sera free agent. Ouais. Exactement. Et puis enfin, un petit mot sur David Price, très rapidement. Bon, Price, c'est vrai qu'il est vieillissant, il ne domine plus sur sa butte au lancer comme il a dominé par le passé. Mais si on regarde niveau financier, bah, finalement, LA limite les risques puisqu'ils vont payer entre guillemets que 16 millions de dollars par an au lieu des 32 initialement prévus dans son contrat. Donc en fait, il a un énorme contrat qu'il traîne comme un boulet et Boston a été obligé de prendre la moitié du salaire pour s'en séparer. C'est donc un risque calculé pour Los Angeles.
Ok, super complet. Seb, par contre, j'ai à écouter ton récit, j'ai des questions, en tout cas deux questions. Comment Boston peut se séparer d'un tel joueur qui n'est pas dans son prime et aussi facilement, c'est-à-dire que pour des contreparties qui n'en sont pas, en fait. Comment c'est possible dans MLB de pas réussir à conserver sa future star, même à un an de son contrat, et essayer peut-être de le prolonger, de lui proposer un challenge sportif plus intéressant. Comment on décide de le bazarder, entre guillemets, aussi facilement?
C'est une très bonne question. Pour y répondre, je vais un petit peu sortir du terrain pour revenir dans les bureaux. Mm-hmm. En fait, Fenway Sport Group, donc, qui dirige Boston, c'est-à-dire à qui la franchise des Red Sox appartient depuis le début des années 2000, je crois 2001, tient à ne plus dépasser ce qu'on appelle la luxury tax. Alors, la luxury tax, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, à l'inverse d'autres sports US, par exemple, où on peut retrouver un salary cap, en baseball, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser sans compter, ou presque, je dis bien presque, parce qu'il y a justement cette luxury tax qui va obliger chaque équipe à avoir au début de saison une masse salariale sous un montant préalablement déterminé. Mmh. C'est un montant qui va augmenter au fil des ans. Et pour vous donner une idée, en 2002, lorsque cette luxury tax a été mise en place, vous n'aviez pas le droit d'avoir une masse salariale supérieure à 117 millions de dollars. Là, en 2020, ça sera 208 millions de dollars. Sinon, vous avez des amendes. Or, Fenway Sports Group, ils ont décidé de plus dépasser ce plafond, comme ça a pu être le cas l'an passé, et de ne plus payer d'amende. En 2018, lorsqu'ils sont sacrés, lorsqu'ils sont champions du monde, eh bien, ils ont 12 millions de dollars d'amende. Et avec ce trade, eh bien, en fait, le propriétaire, qui au passage d'ailleurs est celui de Liverpool en football ou du Boston Globe dans la presse, eh bien, est assuré d'être dans les clous pour la saison à venir, puisqu'il se libère du contrat de Mookie Betts et de la moitié de David Price.
Okay.
Donc, ils ne voulaient pas payer d'amende. Sachant quand même, à titre informatif, qu'une franchise comme les Yankees, donc leur rivaux Oni, ont déjà payé près de 330 millions de dollars depuis 2002. Boston, quant à eux, eh bien, ils n'ont pas dépassé ou à peine les 30 millions de dollars depuis 2002. Donc c'est vraiment, ça a toujours été la politique du club de limiter ses amendes. Et ensuite, il faut savoir que Betts, eh bien, alors oui, il devait rentrer dans son prime, oui, c'est un franchise player, mais il arrivait en fin de contrat, donc comme je vous l'ai dit, il ne voulait pas re-signer. D'accord. Boston voulait une contrepartie, donc c'est chose faite, mais il ne voulait pas s'aligner sur les prétentions de Mookie Betts, qui lui réclamait en fait 420 millions de dollars sur 12 ans, c'est-à-dire un tout petit peu moins que ce que va gagner Mike Trout aujourd'hui, qui émerge à 35 millions l'année. C'est ce qui se fait au max en MLB lorsque vous prenez des gars comme Rondon, comme Trout ou comme Gerrit Cole, ils gagnent cette somme. Mmh. Et Boston tablait plus, eux, sur un contrat de 10 ans, à 300 millions de dollars, c'est-à-dire 30 millions de dollars l'année. Donc en fait, si tu veux, tu as cette différence qui peut sembler eh bien complètement dérisoire ou folle selon le point de vue, mais Boston proposait un contrat plus comme un joueur comme Manny Machado que comme un Mike Trout. Et donc il y a cette différence de désaccord entre les parties. Et Boston a compris qu'il ne pourrait pas le re-signer. Et un an de la fin de son contrat, ils ont tout simplement décidé de s'en séparer.
Alors, je comprends qu'à Boston, finalement, le projet économique est aussi important que le projet sportif, quoi. Il faut faire en sorte que l'équilibre comptable soit respecté au sein des Red Sox. Par contre, est-ce que Mookie Betts voulait partir ou est-ce que les propositions de prolongation de Mookie Betts l'ont pas satisfait et donc il a souhaité du coup ne pas se réengager avec Boston? C'est plutôt cette deuxième option.
Alors, ce qui est sûr, c'est que Mookie Betts, il est c'est l'enfant chéri du Fenway Park. Il a gagné les World Series et comme je vous l'ai dit, il a 27 ans. Il lui reste encore de nombreuses saisons. Il pouvait encore gagner d'autres World Series avec Boston. Mm-hmm. Moi, je suis convaincu que s'il a vu la proposition qu'il réclamait, c'est-à-dire ses 420 millions de dollars sur la table, il aurait signé, un peu comme un Mike Trout a signé l'hiver dernier pour rester à Los Angeles. Okay. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas eu la contrepartie, mais bien évidemment, si Boston lui aurait proposé ce contrat, il serait resté, surtout que l'équipe sur le terrain reste compétitive, alors peut-être pas au niveau de la rotation, mais vous avez toujours des très bons joueurs et des jeunes joueurs comme Devers, comme Bogarts, comme Benintendi, enfin... Voilà, il y a des bons joueurs à Boston et il aurait été excellent encore en tant que leader et puis finalement star de cette équipe.
Melvin, t'imagines les Warriors se séparer de Steph Curry et de Draymond Green parce qu'ils ne peuvent pas assurer le paiement de cette luxury tax et donner les contrats que ces joueurs méritent? Tu imaginerais une situation pareille aux Warriors?
Alors, c'est un très bon exemple parce que les Warriors, et on en reviendra quand on parle de la trade deadline, le trade pour Andrew Wiggins et le trade de 5 de leurs joueurs dans la dernière semaine étaient également pour être sous la luxury tax et pas être un repeat offender, comme on dit, on y reviendra.
Okay.
Donc, est-ce que je peux les voir trader Curry? Non. Est-ce que je peux les voir trader Green, par contre, d'ici 2 ans ou lors de son dernier année de contrat? Oui, absolument.
Pour rester dans ces limites de luxury tax? Tu penses que c'est envisageable?
Ouais, je pense qu'après tout dépend du contexte, mais je pense que rien n'est impossible. Après, le propriétaire des Warriors adore Draymond Green. Curry est intouchable, mais Draymond Green, c'est peut-être le seul qui pourrait potentiellement se faire transférer, mais je pense que ce serait une décision extrêmement compliquée. Mais si financièrement ça fait sens pour le long terme, je pense que oui, ils iraient dans cette direction.
Donc, il n'y a pas d'intouchable en sport US, quoi. Le business avant tout, on est bien d'accord.
Ah bah si, t'as quand même des intouchables, mais c'est vraiment les superstars, les LeBron, les Curry, etc. Quoi.
Okay.
Mais après, pour le commun des mortels des joueurs NBA, non, personne n'est intouchable.
J'aime bien l'exemple de Draymond Green puisque on parle de lui comme la figure, on va dire, des Warriors, celui qui représente un peu l'identité et le nom d'ailleurs, hein, Warriors, c'est pas pour rien. Donc j'imaginais que ce joueur pouvait quand même être un peu protégé par les ambitions financières du club. Mais bon, effectivement, si on peut en contrepartie avoir des joueurs plus jeunes et alléger la masse salariale, je pense qu'un Draymond Green, effectivement, c'est soumis à trade assez rapidement. Restons sur... Ouais, vas-y.
Avant de... Tu voulais me relancer?
Exactement,
ou...
Exactement. D'aller justement, ouais. Avant de lancer le sujet NBA trade deadline, il s'est passé aussi pas mal de choses en MLB. Apparemment, on parle d'une refonte du format des playoffs, c'est ça, Jean-Seb?
Et voilà, c'est ça, exactement. En fait, ça vient de sortir là aussi, c'était hier, donc c'est tout frais. C'est Joel Chairman, donc c'est un journaliste du New York Post qui a publié ça. Selon lui, Rob Manfred, donc le commissionnaire de la MLB et ses équipes, envisageraient plutôt de façon sérieuse de mettre d'ici la saison 2022 un nouveau format en place pour les playoffs.
Alors, est-ce que avant que tu développes, est-ce qu'on peut peut-être expliquer rapidement quel est le format actuel et quelles seraient les différences entre celui actuel et celui envisagé pour les mois à venir, les saisons à venir?
Tout à fait. Aujourd'hui, donc, vous avez deux ligues, l'American League et la National League. Chaque ligue comporte 15 équipes. Yes. Et donc, les 5 meilleur bilan d'une ligue, à savoir, parce qu'en fait, chaque ligue est divisée en trois divisions. Donc, chaque premier d'une division et les deux autres meilleurs bilans vont se qualifier pour les playoffs. Donc, en fait, dans une ligue, vous avez 5 équipes sur 15 qui se qualifient. Les bilans numéro 1, 2 et 3 sont directement qualifiés pour ce qu'on appelle les Division Series. Et puis, le bilan 4 et 5, c'est-à-dire les deux meilleurs deuxièmes, en fait, ceux qui ont la wild card, vont se disputer une wild card game, donc vont se disputer une qualification en Division Series sur un seul match. Donc ça, c'est le schéma actuel avec donc 5 équipes sur 15 qui se qualifient, soit un total donc de 10 équipes sur 30. Avec le nouveau format qui est énoncé dans les rumeurs, eh bien, on n'aura plus 5 équipes sur 15 qualifiées par ligue, mais 7 sur 15. Et du coup, ce wild card game que je viens de vous présenter, eh bien, il disparaîtrait notamment, et il y aurait une tête de série qui serait exempte de premier tour. C'est-à-dire que l'équipe terminant avec le meilleur bilan dans chaque ligue serait exempte de premier tour. Et puis enfin, parmi les mesures qui ont fuité, on parle aussi d'équipes mieux classées qui choisiraient leur adversaire parmi les équipes les moins bien classées. Donc on est un peu dans la télé-réalité.
Carrément, quoi.
Wow. Ouais. Voilà, mais après, tout ça, c'est à prendre pour le moment avec des pincettes, hein, parce que c'est une info que je vous donne parce qu'on la relaye, mais on va suivre ça attentivement dans les prochaines semaines chez The Strikeout, et puis on reviendra avec plaisir sur un podcast Hype pour vous détailler tout ça, mais sans doute avec plus d'éléments qu'aujourd'hui, parce que là c'est encore trop frais.
Ok, mais on le fera à coup sûr, parce que j'ai pas mal de questions. Est-ce que le format déjà nécessitait un changement, et pourquoi, et qui impulse ce changement, d'où vient l'idée et comment elle est développée? Donc on verra un petit peu tout ça plus en détail quand on aura effectivement des éléments plus factuels. Melvin, est-ce que tu es prêt sans ton Splice, bro?
Vous parlez de je me sens orphelin, forcément, mais il y en a eu beaucoup de mouvements à la trade deadline, donc je suis prêt.
T'es prêt? Bon, je te lance rapidement. La trade deadline, c'est terminé jeudi dernier, je crois que c'est ça. C'était à 21h, heure française. Donc les équipes NBA, pour faire court, avaient jusque ce délai-là pour réajuster un petit peu leurs effectifs et lancer soit les courses aux playoffs, soit éventuellement la refonte de l'équipe pour la saison prochaine.
Ouais, alors je voulais commencer, il y a l'embarras du choix, mais je voulais qu'on commence avec le plus gros trade en termes de taille, yes. Et mais aussi peut-être en termes de style, non seulement pour l'équipe en question, mais aussi pour la NBA, c'est-à-dire le trade qui a envoyé Clint Capela à Atlanta, Robert Covington à Houston. Donc c'était un trade à 4 équipes avec 12 joueurs inclus dans le trade. On ne va pas revenir sur tous les joueurs, parce que ça va prendre du temps.
Ouais,
ça peut être long, mais je pense que la grande conclusion de ce trade, c'est que Houston est vraiment, mais toutes ces chips au milieu du tapis, ils sont all-in sur le small ball. Donc le small ball, c'est jouer sans pivot. Donc, bye-bye Clint Capela. Alors, Clint Capela, il avait un bon fit à Houston jusqu'à même l'année dernière, mais cette saison, les Rockets ne jouent pratiquement plus de pick and roll et ils préfèrent donner la balle à Harden en isolation ou à Westbrook en isolation. Donc, du coup, s'il n'y a plus besoin de poser des picks, bah, c'est vrai que Capela, il prend un peu de l'espace en fond de raquette. Alors oui, il peut aller prendre des rebonds et il était utile pour envoyer des alley-oops. Mais Daryl Morey et Mike D'Antoni ont décidé d'aller dans ce ultra small ball avec le plus possible de shooters autour de James Harden et de Russell Westbrook. Donc est-ce que ça va marcher? C'est difficile à dire. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si ça marche, on risque de voir d'autres équipes aller dans ce sens-là, et ça va peut-être encore plus impacter le rôle que les pivots ont dans la ligue, un rôle qui diminue de plus en plus. Donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ça va être intéressant à voir, parce que maintenant vous allez devoir, en niveau défensif, être vraiment vraiment écarté, et donc réussir à contenir un James Harden en 1 contre 1, ça va forcément ouvrir des tirs ouverts aux shooters de Houston. Donc est-ce que ça peut marcher? Je pense que ça peut marcher en saison régulière. En playoff, je suis un peu plus partagé, parce que quand des équipes vont avoir le temps de planifier contre ces Rockets-là. Je pense que ça va être plus compliqué, surtout quand ils vont avoir affaire aux mastodontes de la conférence Ouest.
Alors, ouais. Donc ça, c'est... Je me permets, Melvin, j'ai énormément de questions là-dessus. Houston sort de série playoff perdue, bon, on sait contre qui. Donc, il fallait nécessairement essayer de réajuster et de développer un peu son groupe pour qu'il puisse éventuellement passer une finale de conf et arriver en finale NBA. Sauf que, entre-temps, les Warriors ont explosé, mais les Lakers de Los Angeles, Denver Nuggets, Utah Jazz, pour ne citer que, arrivent à développer une équipe performante autour de pivot ou d'intérieur, on va dire, performant. Anthony Davis, Nikola Jokic, Rudy Gobert. Des caractéristiques différentes chez ces trois joueurs, mais des pierres angulaires. Comment, et c'est ma question, hein, comment les Rockets peuvent faire le choix de se séparer d'un Clint Capela qui, face à Rudy Gobert en série playoff, n'était pas ridicule, sur l'investissement défensif est toujours à fond, sur la pose de pique pour James Harden and roll pour recevoir en alley-oop, je pense pas qu'il se baladait sur le terrain mais était souvent au bon endroit. Comment on peut sacrifier cette assurance versus l'adversité qui s'est renforcée pour faire du small ball une des forces des Rockets, mais qui a tout à prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut réadapter l'équipe en cours de saison, prouver qu'on peut jouer comme ça, être efficace et gagner en playoff. Comment on peut faire ça en quelques mois?
La première réponse à ta question, pour moi, c'est avant tout une réponse mathématique. C'est-à-dire que Daryl Morey, le général, et Mike D'Antoni parient que, ils risquent d'être complètement à la ramasse au rebond et dans la raquette. Mais si leur adversaire marque 2 points et que Houston marque 3 points à chaque fois, et ben, d'un point de vue mathématique, les Houston devraient marquer plus de points que son adversaire. Donc bon, c'est un calcul qui se défend. Dans la pratique, je suis pas sûr que ça sera.
Un pari. Tu l'as bien dit. J'aime bien ce terme-là parce que les paris, on gagne et on perd.
C'est totalement un pari et on l'a vu. Et ce pari, il le tente depuis déjà plusieurs années avec un pivot. Mais si on se rappelle du match 7 de la finale de conférence 2018 contre les Warriors, ils ont raté 27 tirs à 3 points de suite. Et ça leur a sûrement coûté une place en finale NBA et sûrement un titre NBA. Donc c'est vraiment un pari et Morey a souvent quand il essaye un truc, il l'essaye à fond. Donc c'est ce qu'il tente aujourd'hui. Après cette décision, elle est faite sur ce qu'on appelle un small sample size. Ils ont joué sans Capela parce que Capela a été blessé assez souvent et ils se sont rendus compte que leur statistique avancée était meilleure avec PJ Tucker en pivot. Donc du coup, il décide de tenter un coup de pari et de partir sur ça, sur les 25 derniers matchs de la saison, pour trouver une sorte d'alchimie et espérer créer la surprise en playoff.
Ok, donc...
C'est sûr que ça va être compliqué, mais on l'a vu, ils ont joué leur premier match contre les Lakers, ils ont gagné. Ils ont perdu sur un tir incroyable au buzzer contre Utah avec un Rudy Gobert qui s'est retrouvé à devoir défendre sur Russell Westbrook parce que Russell Westbrook est le seul non-shooter du 5 majeur de Houston. Mm-hmm. Donc ça va nous créer des vis-à-vis vraiment fascinants au niveau juste du style. Et ça va être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc je pense que ça va être, en tout cas pour moi, amoureux du basket, ça va être vraiment fascinant. Après, j'espère de tout cœur, comme je le disais, que Houston ne va pas gagner un titre. Personnellement, j'y crois pas, mais bon, on sait jamais. Parce que si c'est le cas, on sait que la NBA est une ligue où les équipes aiment se copier. Et donc, ça voudrait dire sûrement encore moins de place dans le jeu NBA pour les pivots. Donc à voir.
Houston, vainqueur de ce trade ou pas? Est-ce qu'ils upgradent un petit peu leur équipe avec ce changement ou pas?
Alors honnêtement, c'est dur à dire parce que c'est trop tôt pour le dire. D'un côté, ils vont chercher l'ailier qu'ils voulaient, un des seuls, tu vois, joueurs qui peut mettre à 3 points et qui est bon défenseur, la personne de Robert Covington. Mm-hmm. Après, si t'es Houston, tu mesures ton succès par une seule chose, c'est gagner le titre. Donc, est-ce qu'ils sont meilleurs? Je pense qu'on peut pas. C'est vraiment difficile à dire parce que c'est un style qui est vraiment nouveau. Donc on verra. Par contre, je pense que l'équipe qui a fait une bonne affaire dans ce trade, c'est Atlanta. parce que Capella va vraiment, je pense, se faire plaisir aux côtés de Trae Young, parce que lui a encore besoin de pique, et donc il va se gaver d'aller hoop, donc il va être dans le même rôle qu'il a joué avec Harden. Et il y a plusieurs personnes qui se demandaient si Capella et Collins allaient pouvoir cohabiter. Je pense que oui, parce que Collins a une palette offensive qui est quand même plus grande que Capella, qui est vraiment le rim runner pur par définition. Donc je pense qu'Atlanta a fait une bonne opération.
Ok, Jean-Seb, tu avais peut-être une réaction sur ce que Melvin présentait.
Ouais, en fait j'ai une question par rapport à la trade deadline en NBA, puisque tu vois Melvin en baseball, lors des trade deadline, il n'est pas rare que des équipes se séparent de stars, mais vraiment de stars du baseball. Je pense par exemple à Verlander qui est parti à Houston en 2017, et puis d'ailleurs il gagne les World Series. Tu as en 2015 l'exemple de David Price qui est, au moment où il est changé, un des top 3 des lanceurs d'American League, ou encore en 2016 avec Chapman qui arrive aux Cubs et qui est donc le meilleur closer à son poste à ce moment-là, et derrière il gagne les World Series avec Chicago. Et donc ma question est la suivante: est-ce que en NBA, eh bien, on peut voir à l'instar de la MLB des vraies stars du jeu, des vraies stars de leur équipe bouger, ou est-ce que finalement la trade deadline, eh bien, elle est vraiment orientée sur des, on va dire, sur des seconds couteaux. C'est pas péjoratif, mais sur des joueurs qui ont peut-être un peu moins de visibilité, un peu moins d'importance pour les résultats de leur équipe.
Ouais, non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors c'est rare généralement que des superstars se fassent trader à la deadline. Je pense un des noms qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Carmelo Anthony, qui avait été tradé à New York, il me semble, juste avant la trade deadline. Je dis peut-être une bêtise.
Non, t'as raison, c'est ça.
Mais c'était une star qui voulait partir de Denver, donc c'était un contexte assez particulier. Après, par contre, il y a des, comme tu le dis, des seconds couteaux, ou des bons joueurs, qui peuvent faire la différence. Je pense par exemple à, si on revient un peu plus, et je vais faire mon Angelo, je vais ouvrir l'encyclopédie du basket. Rachid Wallace, tradé à Détroit en 2004 et qui leur permet de gagner le titre contre les Lakers dans la foulée. Et puis plus récemment, l'année dernière, avec le trade de Marc Gasol à Toronto.
Très important. Extrêmement
très qui, important. Là aussi, leur a permis de gagner. Donc, oui, on le verra. Il y a quelques All-Stars, tu vois, qui sont échangés pendant la trade deadline, des gros noms, mais généralement ça fait pas vraiment bouger ça va pas permettre à une équipe, par exemple tu vois D'Angelo Russell de Golden State qui était All-Star l'année dernière, s'est fait transférer à Minnesota, bon, ça va pas changer grand chose pour Minnesota ni pour Golden State cette saison, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé avec le trade à 4 équipes et 12 joueurs, parce que c'est celui qui a peut-être le plus de chances d'impacter la fin de saison et les playoffs.
Ce que tu dis, c'est qu'en NBA, il n'est pas rare de voir donc des joueurs de complément, des lieutenants qui peuvent changer d'équipe et qui peuvent parfois aider donc à gagner un titre, comme tu l'as dit avec Gasol l'an passé. Mais tu verras pas un Giannis ou un LeBron changer d'équipe comme ça, quoi.
Non. Sauf si il y a vraiment un problème dans l'équipe et que la star demande à être transférée. On l'a vu par exemple l'année dernière avec Anthony Davis, où on pensait qu'il allait se faire transférer à la trade deadline, finalement ça s'est pas fait. Mais donc c'est vraiment toujours dans un contexte vraiment particulier. Mais si tu es un franchise player, généralement tu es plutôt safe, on va dire, pour la trade deadline. Donc c'est vraiment plus les équipes qui pensent être à avoir une pièce à trouver pour vraiment passer un palier et peut-être jouer le titre, ou alors c'est des équipes qui essayent de lâcher des stars, par exemple André Drummond de Détroit qui a été envoyé à Cleveland contre deux cacahuètes et un jus d'orange.
On va en reparler.
Parce qu'ils n'avaient pas envie de continuer à le payer, donc c'est vraiment, on s'en débarrasse parce qu'on a besoin de cet espace salarial pour aller dans une nouvelle période. Et partir dans un rebuild. Mais sinon, c'est rare que des stars dans la force de l'âge se fassent se fasse transférer comme ça.
Puis les contrats sont tellement, tellement juteux et importants qu'il faut pouvoir trouver les contreparties aujourd'hui et trouver une contrepartie à LeBron James, c'est une franchise complète qui doit déménager, quoi, quasiment. Donc c'est un peu compliqué à faire bouger. Allons sur un trade qui t'a intéressé, Melvin, c'est celui de Wiggins, donc qui arrive en échange de D'Angelo Russell, hein, mais pas seulement, aux Warriors. T'as pu le voir d'ailleurs de près là sur ses premiers matchs. Qu'est-ce que ça t'évoque, le fait de voir partir D'Angelo Russell, qu'on disait matchable avec Steph Curry et Klay Thompson, mais apparemment non. Et qu'est-ce que ça t'évoque, donc, du coup, à l'inverse, l'arrivée d'Andrew Wiggins pour le court terme et le long terme?
Ouais, alors je suis pas surpris que Russell n'ait pas fait long feu à Golden State. Alors après, j'aurais pensé qu'ils allaient attendre l'été pour le transférer. Donc je pense que le transférer maintenant, ça envoie un message assez fort que bah non, c'était pas possible de jouer avec lui dans le système de Steve Kerr. Et d'ailleurs, on l'a vu tout de suite après le trade. Les Warriors jouent beaucoup plus rapidement et se sont remis à switcher en défense alors qu'ils ne pouvaient pas le faire avec D'Angelo Russell parce que ben défensivement c'était un peu compliqué pour lui.
C'est ce que tu penses, toi, Melvin, ça? C'est toi qui l'as vu un peu. Tu penses qu'il y avait une certaine limite à avoir D'Angelo Russell avec soi, défensif déjà, et peut-être aussi dans
le passing game. Oui, c'est vraiment vraiment une liability.
Okay.
C'est-à-dire parce que un, il donne pas beaucoup d'efforts et puis physiquement il est pas imposant même s'il est grand pour un arrière, mais tu peux pas jouer à l'arrière avec un backcourt Russell Curry en défense et avoir Klay Thompson en poste 3 qui est pas vraiment un poste 3, donc t'es vraiment en déficit de taille par rapport aux Lakers, par rapport aux Clippers, même par rapport à d'autres équipes de la conférence Ouest. Donc pour moi, ça fait sens et j'étais un peu surpris par le trade quand ça s'est passé cet été, mais c'était surtout pour pouvoir récupérer quelque chose en échange de Durant et ne pas le laisser partir pour rien. Mm-hmm. Et donc du coup, il transforme D'Angelo Russell en Andrew Wiggins. Alors Andrew Wiggins, il est loin de faire l'unanimité. Il a un contrat qui est aussi gros que celui d'Angelo Russell. Par contre, Russell a beaucoup plus de valeur que Wiggins, donc ça c'est peut-être le seul hic pour les Warriors.
Okay.
Au niveau basket, je pense que Wiggins peut s'épanouir chez les Warriors parce qu'il sera pas l'option numéro 1 ou l'option 1 bis comme il était à Minnesota avec Karl Anthony Towns. Là il sera vraiment l'option numéro 3 derrière Steph et derrière Klay Thompson. Et il a aussi Draymond Green à côté de lui qui l'aidait. Donc je pense que d'avoir dans ce système beaucoup plus collectif basé sur le mouvement du ballon, le joueur, je pense que quand vous avez les deux meilleurs shooters de l'histoire de la NBA sur le terrain et que d'un coup la défense doit venir fermer sur Wiggins, il va avoir des espaces pour attaquer le cercle et c'est une de ses forces qui devrait le mettre en valeur. Après, la question c'est aussi en défense, c'est pas un grand défenseur, mais au moins il a un gabarit qui peut tenir la route face au poste 3 de la conférence Ouest. C'était vraiment le gouffre dont souffraient les Warriors depuis le départ de KD, depuis le trade d'Iguodala. Et là, ils arrivent à récupérer un vrai 3 qui peut jouer, qui peut défendre sur un LeBron, comme on l'a vu lors du premier match. Donc moi, je suis plutôt optimiste.
Ok. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut fitter, c'est-à-dire qu'il peut progresser sous les ordres de Steve Kerr? On sait que Steve Kerr fait évoluer ses joueurs sur le plan tactique, technique, etc. Est-ce que Wiggins, qui a un peu pêché justement dans son évolution tactique, est-ce que au Warriors, ça peut être quelqu'un qui coupe off the ball, qui peut vraiment travailler aussi sans le ballon, quoi? Voilà, être présent sans le ballon.
Ouais, bah écoute, moi j'ai été surpris de le voir là, lors de ces deux premiers matchs. C'est un bon coupeur loin du ballon. Ça, c'est une de ses forces. Il peut attaquer le cercle. Moi, je m'attendais un peu à voir un croqueur, pour être totalement honnête. Et j'ai été surpris, parce qu'il aime faire l'extra passe. Il n'hésite pas à faire l'extra passe. Alors, est-ce que c'est aussi parce que, ben, il arrive dans une nouvelle franchise, il sait pas encore trop comment se situer, ou est-ce que c'est ça fait partie un peu de son DNA, à voir. Mmh. Mais je pense que dans le dans la culture des Warriors, entouré des joueurs de ses nouveaux coéquipiers. Je pense qu'il a vraiment l'occasion de progresser. Une des raisons qu'on a évoquées rapidement, c'était la luxury tax aussi pour Golden State. Ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle ils n'ont pas attendu. C'est-à-dire que il y a en NBA, dans le salary cap, il y a une règle qui s'appelle la repeater tax. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de la luxury tax lors de 3 des 4 dernières saisons, la saison d'après, vous devez payer la repeater tax qui est encore plus punitive. Et donc, du coup, vu le résultat de la saison actuelle, le propriétaire avait donné pour mandat à Bob Myers de descendre sous la taxe cette année. Donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé Glenn Robinson et Alec Burks à Philadelphie. C'est pour ça qu'ils sont aussi séparés de Willie Cauley-Stein et qu'ils ont ajouté
Omari Spellman
au deal de D'Angelo Russell. Et hier soir, Kerr disait aussi que l'avantage de récupérer Wiggins ou un autre ailier maintenant, c'est que vous avez ces 25 derniers matchs de la saison pour déjà apprendre à se connaître. Que ce soit Wiggins, apprendre à connaître le système des Warriors, ses coachs, ses nouveaux coéquipiers, mais aussi pour un mec comme Curry qui va revenir dans 2-3 semaines, à apprendre à jouer avec un Wiggins et savoir comment ils peuvent jouer ensemble.
Donc Wiggins, sur le long terme, c'est un choix pris par les Warriors.
Oui, après, comme on l'a dit, personne, si jamais le business ne peut pas, est-ce qu'ils pourront le trader pour autre chose? Peut-être. Est-ce que quelqu'un serait, disons que si les Warriors se retrouvent avec le premier choix de draft cet été, est-ce que tu peux te trouver avec un package Wiggins plus le premier choix de draft pour aller chercher un
Giannis
Antetokounmpo, Giannis comme tu le veux?
J'aime beaucoup, j'y crois.
Ok, moi je suis assez, j'y crois pas autant que toi, okay. Mais on verra. Mais disons que l'option A c'est Wiggins, c'est d'avoir ce 3, mais je pense que s'il y a la possibilité de trader pour avoir quelqu'un d'autre, bah, je pense qu'ils fermeront pas la porte.
Bon, je vais digresser un peu, mais Giannis, tu penses qu'une équipe comme les Warriors vont pas s'aligner pour tenter de l'avoir, même s'ils ont rien pour le faire? Tu penses qu'ils vont pas
Je pense que forcément ils vont tenter le coup. Je pense que tout le monde, toutes les équipes vont tenter le coup. Après, je pense que Giannis, ça va aussi dépendre du résultat de cette saison. Si Milwaukee va en finale NBA et gagne le titre, c'est difficile de le voir partir. C'est quelqu'un d'être assez loyal. Alors après, la seule différence, ça peut être au niveau marketing et au niveau de sa marque, d'avoir un plus gros marché s'il se retrouve à Los Angeles, s'il se retrouve à San Francisco, s'il se retrouve à New York ou ailleurs, ou même à Toronto. Mais bon, à voir, on verra. Mais à mon avis, moi je mettrais plus un billet sur Milwaukee que sur notre équipe pour le moment, en tout cas au jour d'aujourd'hui.
Ok. Autre trade majeur que tu aurais relevé?
Il y a un trade, c'est l'arrivée de Marcus Morris aux Clippers dans un trade à 3 équipes avec les Wizards et avec les Knicks.
Yes.
Alors bon, pauvre Mo Harkless qui du coup fait le trajet inverse, qui maintenant se retrouve à New York.
Ouais, Mo Harkless qui n'avait pas été si mauvais d'ailleurs avec les Clippers, mais bon, forcément il fallait une monnaie.
Ouais. Après, il a un contrat qui expire cet été, donc il peut être un candidat au buyout. Donc les Knicks pourraient lui racheter la fin de son contrat et lui permettre d'aller rejoindre un prétendant. C'est une option, on verra. Mm-hmm. Mais par contre, l'arrivée de Marcus Morris, je pense que c'est vraiment une addition solide pour les Clippers. Un, parce que ça renforce la rotation et ça leur donne un ailier de plus qui peut même débuter les matchs. Mais deux, ça leur permet aussi de soulager Paul George et Kawhi Leonard parce que Marcus Morris a l'habitude de défendre par exemple sur un LeBron James quand il était à Boston et quand il jouait Cleveland et sur d'autres joueurs. Donc je pense que c'est une bonne opération.
Ça fait des Clippers peut-être un prétendant à la finale à l'Ouest, finale de conf.
Ah oui, ouais. Oui, 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 bah Moi, je pense que on parlait, tu vois, de gagnant-perdant. Pour moi, peut-être les plus gros perdants de cette trade deadline, c'est peut-être les Lakers au final, parce que bon, ils n'avaient pas les pièces pour aller chercher Maurice, parce que forcément, ils n'allaient pas mettre Kyle Kuzma dans le deal. Mm-hmm. Mais je pense qu'il leur manque quand même toujours un créateur, surtout quand LeBron se repose. Il y a aussi, quand on a Rondo sur le terrain qui ne met pas dedans, en play-off, les défenses vont complètement l'ignorer pour venir fermer la raquette. Donc, à voir ce que les Lakers vont faire sur le marché des buyouts, justement. Mm-hmm. Mais pour moi, je mettrais peut-être même les Clippers comme le favori numéro 1 à l'Ouest.
Le marché des buyouts, c'est un marché qui est ouvert jusqu'à la fin de saison régulière, ou est-ce qu'il y a pareil une deadline pour pouvoir acquérir justement ces joueurs libres?
Alors, il y a une deadline pour signer les joueurs, si vous voulez, qui participent au play-off. Et il me semble que c'est le 1er mars.
D'accord, ouais, c'est assez court.
Mais je vérifierai, ouais. Mais c'est qui arrive. C'est maintenant jamais. D'ailleurs, on a vu certains commencer à arriver avec Marvin Williams qui s'est fait buy-out de Charlotte, qui a signé à Milwaukee, et Michael Kidd-Gilchrist pareil qui va signer avec Dallas. Mm-hmm. Donc Tristan Thompson est aussi un autre candidat au buy-out, vu que maintenant il y a un peu un embouteillage dans la raquette à Cleveland. Yes. Donc à voir.
Parlons de Cleveland d'ailleurs, André Drummond, là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut jeter un joueur de ce calibre statistique, en tout cas, aussi facilement de Détroit pour Cleveland contre des cacahuètes, tu l'as dit tout à l'heure.
Comment ouais, ça va ouais, 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 pour, alors, on va quand même, par respect pour les joueurs qui sont fait transférer pour André Drummond, donc il va à Cleveland contre Brandon Knight, qui joue pratiquement plus, John Henson, pareil, un deuxième tour de draft en 2023, donc vraiment pas grand-chose. Mm-hmm. Alors, je pense que ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que le marché pour André Drummond n'était pas si costaud que ça, et que encore une fois, est-ce qu'il y a besoin d'un pivot un peu old school à la Drummond dans la NBA d'aujourd'hui? Et puis deux, je pense que les décideurs NBA avaient un peu de mal à voir Drummond joueur qui fait gagner une équipe.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'attitude? C'est le joueur qui aujourd'hui a poussé Détroit à s'en séparer rapidement, quoi, parce que statistiquement j'ai l'impression que le joueur triche pas chaque soir. Un profil comme lui à Boston, je pense que ça upgrade un petit peu Boston sur la défense, sur pick et à l'intérieur notamment. Voilà, est-ce que aujourd'hui c'était pas on n'est pas dans les vestiaires, mais l'attitude d'un joueur qui aujourd'hui agaçait le front office pour regarder simplement.
Je sais pas si c'est vraiment une question d'attitude, plus qu'une question de finance et de Détroit est dans cette sorte de situation un peu bizarre où ils ont Drummond, ils ont fait le trade pour Blake Griffin il y a quelques années, mais ils vont nulle part et ils sont toujours à se battre pour la 8e place à l'Est. Et je pense que le propriétaire et le GM se sont dit bon, ça sert à rien, on va nulle part avec cette équipe. Donc il faut faire quelque chose, et ben ça veut dire qu'il faut trader le joueur avec le plus gros salaire. Donc je pense que c'est surtout ça la raison principale, et aussi le fait de pas vouloir repayer le joueur avec un salaire mirobolant parce qu'ils y croient plus, tout simplement. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils étaient vraiment prêts à s'en débarrasser et à recevoir les petits contrats de les gros contrats de Knight et de Hanson qui me semble qui expirent à la fin de l'année. Comme ça ils peuvent après repartir vraiment à zéro, et je serais pas surpris même de voir un trade cet été de Blake Griffin par exemple, ou un buyout quand il sera, ou un stretch, ou le stretcher même potentiellement. Donc je pense que c'est vraiment départ à zéro pour Détroit qui était vraiment la raison principale de ce trade pour Drummond.
Ok, je pense que c'est à peu près les seuls trades notables qu'on peut peut-être souligner.
Le dernier trade qu'on
ouais vas-y
On peut parler vite fait, c'est l'ami André Iguodala qui file à Miami après avoir passé 6 mois sur son canapé à collecter les chèques de Memphis, tout en réussissant à également signer une prolongation de 30 millions avec une deuxième année en team option. Donc c'était vraiment un sacré coup pour lui. Miami reçoit aussi Jay Crowder dans ce deal. Alors les deux ont été très bons hier contre les Warriors. Crowder a mis, je crois, il doit finir à 3 points notamment. Et Iguodala a fait du Iguodala en n'ayant pas une ligne de stats remarquable, mais par contre il termine à plus 25 et il y a une décision, il y a. Donc c'est ça, je pense que grâce à ça, il rend Miami encore plus dangereux et dans ce rôle d'outsider dans la conférence Est. Et puis dans ce deal, il y a quand même Memphis qui fait un bon coup parce qu'il récupère un autre jeune joueur qui est sur la même timeline que Ja Morant, que Jaren Jackson Jr. et que Dylan Brooks. Alors, c'est bien sur le papier. En pratique, pour que ce soit vraiment bon, il faut que Winslow soit disponible sur le terrain parce qu'il a été quand même souvent blessé dans sa jeune carrière.
Ouais, c'est vrai.
Donc à voir. Mais c'est sympa de voir la direction que prend Memphis. Ça va être une autre équipe de l'Ouest à regarder de très près dans les années qui arrivent.
Oui, on pensait vraiment qu'ils allaient avoir beaucoup de difficultés. Alors, les chiffres ne sont pas encore au top, mais ils ne sont pas dans les bas-fonds de la conférence. Ils sont déjà... plutôt pas mal en avance sur leur tableau de marche. Et pour Miami, il faut que les matchs se jouent et qu'ils se gagnent. Mais s'il devait y avoir une finale de conf entre Miami et Milwaukee, ça devrait vraiment, vraiment être très, très intéressant à voir jouer. Je sais pas ce que t'en penses, mais un Iguodala sur Giannis, bon, je pense qu'il sera en souffrance, mais ça peut quand même... Amener Giannis à jouer son meilleur basket pour pouvoir sortir de cette finale de conf. Hein.
Ouais, je pense qu'entre Toronto, entre Miami, Boston, Philadelphie, qu'il ne faut pas non plus oublier. Je pense qu'on va avoir des beaux playoffs à l'Est. Alors Milwaukee a toujours quand même l'impression d'être un cran au-dessus, mais entre ce que peut faire défensivement Toronto avec Nick Nurse, pareil avec Spoelstra, ce sont deux équipes qui sont intelligentes, qui ont l'expérience. Des grands moments et qui ont deux coachs qui sont vraiment au top. Mm-hmm. Je pense qu'ils pourraient peut-être créer une surprise. Donc à voir, mais Milwaukee est évidemment l'équipe à abattre à l'Est.
Bon, ça reste pour toi, Milwaukee, malgré ces changements à Miami. Milwaukee a un petit temps d'avance quand même.
Oui, vu qu'ils auront aussi l'avantage d'expérience. L'expérience de la défaite de l'année dernière contre Toronto, donc je pense que Milwaukee est toujours favori pour rejoindre la finale NBA cette année.
Ok, bon, moi je pense pareil, mais franchement Miami, je les vois bien là, parce que Spoelstra c'est vraiment tactiquement très propre, donc avec les shooters qu'ils ont, avec cette intimidation à l'intérieur, Dragic, l'expérience, ça peut vraiment aller loin. On va suivre ça de près. Melvin, on reste avec toi. L'All-Star Game approche à grands pas. Hein, je crois que c'est dans quelques jours, c'est ce week-end, le All-Star Weekend même. Tu seras, c'est ça. Hein, tu me confirmes que tu seras pour Basket USA.
C'est ça. Ouais. Bah, moi, je décolle pour Chicago dans week-end, donc. À Chicago pour voir les festivités et puis pour voir l'hommage qui sera fait à Kobe et découvrir le nouveau format du match et le nouveau format du concours à 3 points avec les deux positions ajoutées un tout petit peu plus loin pour un peu coller à ce qui se passe aujourd'hui en NBA.
Toi qui es aux États-Unis, ce nouveau format là, qu'en disent les Américains, que ce soit dans les médias mais surtout les fans de NBA, est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils s'y intéressent, est-ce que ça va apporter quelque chose à cet événement ou pas?
Alors je pense que la réaction initiale a été un peu négative, ce qui est assez logique quand on amène du changement. Puis je pense qu'ils n'ont pas vraiment bien communiqué, c'était un peu compliqué à tout comprendre du premier coup. Mais une fois que vous regardez le changement de format, moi, c'est quelque chose dont j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, LeBron et Giannis, quand ils ont fait leur sélection des équipes, ont forcément dit ce qu'il fallait en disant que ça allait pouvoir améliorer l'intensité du jeu, le fait de jouer pour des associations caritatives. On verra si ça se traduit sur le terrain, mais je pense que ça a du potentiel en tout cas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis la fin du match, changer le format pour avoir un score cible. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a marché très bien dans The Basketball Tournament, qui est un tournoi qui a lieu l'été aux États-Unis. Et puis, ça veut dire que le match se terminera sur un panier marqué, ce qui est aussi sympa. Donc potentiellement, on pourra avoir un game winner même pendant l'All-Star Game. Donc ça, je pense que ça va être assez sympa. Si les joueurs jouent vraiment le jeu, je pense que ça va être assez sympa. S'ils jouent pas le jeu, je pense que ça va être un peu compliqué de trouver une autre solution pour avoir plus d'intensité au Star Game.
Bon, après, il fallait changer quelque chose, donc clairement, il faut donner la chance à ce nouveau format, et puis ensuite, toutes les personnes compétentes seront là pour évaluer et éventuellement apporter des modifications. Jean-Seb, tu regarderas, toi, le All-Star Game, le Star Weekend, ce week-end ?
Écoute, pourquoi pas
Est-ce que ce format t'intéresse ? Est-ce que tu étais déjà au courant un peu de l'évolution du format ? Est-ce que ça t'intéresse de voir que ça bouge un peu en NBA, quoi ?
Ouais, et puis le fait de proposer des cartons avec à la clé voilà, une somme pour une
association, ouais.
Une association, tout ça, je trouve ça très intéressant. Ça va permettre effectivement de relancer un petit peu le débat autour des enjeux sportifs de ce match qui était, j'avais l'impression, devenu un petit peu une mascarade de basket. Donc pour ça, c'est plutôt bien. Et puis voilà, si en plus ça permet de faire gagner de l'argent à des personnes qui en ont besoin, oui, non, je suis pour. Après, est-ce que je vais regarder ? Je vais essayer, mais je ne promets rien, on va dire.
Okay. Come on, Jean-Seb.
Bon. Je me mettrai plus à fond sur les playoffs et la fin de la saison, promis.
Bon, les Spy Bros te donneront les inputs de l'intérieur, j'en doute pas. Messieurs, on arrive déjà au terme de cette émission. Jean-Seb, je crois qu'il y a, pour revenir un petit peu sur The Strikeout, il y a des choses qui ont changé là pour vous ces derniers jours. Une nouvelle identité de marque, on va appeler ça comme ça, et un jeu concours qui a lieu actuellement sur Twitter, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on a fait effectivement... un travail avec un graphiste, donc qui est Valentin, que je remercie, qui travaille avec nous, qui est dans notre équipe, qui a décidé de changer eh bien notre identité visuelle. Il a proposé à la base différents logos, mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord entre nous sur lequel adopter, donc on a fait voter. Et en fait, oui, on a aussi ce jeu concours, donc avec un livre qui est à gagner. On le fait gagner jusqu'à mercredi, donc jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un livre de Olivier Rivol qui est l'Amérique et le sport, et qui parle notamment des différents sports US, à savoir baseball, foot US, hockey ou NBA. Donc voilà, on essaie de faire profiter un petit peu à nos followers avec un petit cadeau.
Eh ben, c'est gentil, je pense que c'est toujours plaisant d'avoir des petites lectures comme ça où on apprend pas mal de choses sur la culture des sports US, donc ça devrait à mon avis intéresser beaucoup de monde. Messieurs, je vous propose de conclure donc l'émission dès à présent. Melvin, merci de ta présence, bon All-Star Game, profite bien. Prends-nous des petites photos, des vidéos, fais-nous vivre un petit peu le truc de l'intérieur, yes. Si tu as le temps, ça nous fera plaisir. Jean-Sébastien, merci d'avoir été l'homme de The Strikeout pour cette semaine.
Je vous remercie, c'est toujours un plaisir.
T'es le bienvenu, hein. Tu reviens quand tu veux, toi et tes équipes. Les hypers, hypeuses, merci, à la semaine prochaine, bonne semaine à vous, ciao.
We're the 32nd pick in the 2018 NFL Draft. The Baltimore Ravens select Lamar Jackson, quarterback, Louisville. All right. Hey! Creativity.
Number two, Derek Jeter.
I love me some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball.
Curry drives, scoop layup.
All beauty from Steph Curry.
If I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them.
Moore told us, and now we have an altercation. Alex Ovechkin pounding away on Andrei Svechnikov, who's down.
right there made you the greatest player of all time.